Chers amis visiteurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus aussi. J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Dans le premier chapitre, l'apôtre Paul s'adresse donc à ces chrétiens d'Éphèse qu'il définit, il dit « saints et fidèles en Jésus-Christ ». Il leur rappelle les bénédictions qu'ils ont dans le Seigneur. Il dit que c'est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il leur dit que aussi bien juifs, les chrétiens d'origine juive ou non juives, que Dieu les avait choisis avant la fondation du monde et a fait d'eux ses enfants, des enfants par adoption, et que ces croyants reçoivent le pardon de leurs péchés et sont scellés du Saint-Esprit que le Seigneur avait promis, qui est le gage de leur héritage. Et conscient de toutes ces bénédictions en Jésus-Christ, l'apôtre Paul, au chapitre 1, verset 15 et suivant, il prie le Père, il prie que ces chrétiens puissent avoir une bonne compréhension de tout ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Et donc, il demande à Dieu qu'il illumine les yeux de leur cœur. Il demande à Dieu qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils comprennent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel, la richesse, il est dit, de la gloire de leur héritage et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Il dit que cette puissance, Dieu l'a manifestée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, mais aussi on va le voir que cette puissance, il déploie cette puissance aussi en notre faveur. Dans le chapitre 2, nous allons lire les 10 premiers versets. L'apôtre Paul va rappeler que si Dieu nous a sauvés, ce n'est certainement pas à cause de ce que nous pouvons être en tant qu'être humain, ou à cause de nos mérites personnels, mais seulement par sa grâce. Et c'est parce qu'il est un Dieu qui est riche en miséricorde, riche en amour, riche en bonté, qu'il l'a fait selon sa souveraineté. Et donc nous allons voir dans ces quelques versets, versets 1 à 10, que le salut en Jésus-Christ qui est offert par grâce, le salut en Jésus-Christ donne une nouvelle destinée, que le salut en Jésus-Christ donne une nouvelle position, mais aussi que le salut en Jésus-Christ nous donne de nouvelles responsabilités. Alors j'aimerais que nous lisions ces 10 versets d'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, ce passage nous dit que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous qui avons placé donc notre confiance en Jésus-Christ, c'est parce que Dieu, le Créateur de toutes choses, qui est riche en miséricorde, il nous a aimés. Et l'apôtre précise que c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. Oui, parce que Dieu est amour. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans Jean chapitre 4. Dieu est amour. Et il a manifesté son amour envers nous en envoyant son Fils Jésus. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a aimés, mais il n'a pas aimé seulement ceux qui sont sauvés. Son amour est pour tout le monde. Dieu a tant aimé, il dit, le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc tous peuvent être au bénéfice de la grâce de Dieu, parce que Dieu aime tout le monde. Et il attend de chacun que chacun reconnaisse son état et accepte son moyen de salut. Et la première des choses, c'est que ce texte nous dit... Et je vais parler avec en parallèle à ceux qui ont mis leur foi en Jésus, mais aussi, par voie de conséquence, à ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus. Donc dire, nous qui avons mis notre foi en Jésus, voilà ce que cela nous apporte, et vous qui n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, voilà ce que ça peut vous apporter. Donc, ce texte nous parle du salut par grâce et j'aimerais souligner premièrement que Dieu nous a sauvés pour nous donner une nouvelle destinée. Dans les versets 1 à 3, Dieu nous a sauvés, nous qui croyons en Jésus-Christ, parce que malgré ce que nous étions, c'est ce que l'apôtre Paul souligne. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime, vous aussi, vous qui n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ, Dieu vous aime malgré ce que vous êtes. Et si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, entendez cela, Dieu vous aime malgré ce que vous êtes. Dieu, nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous a aimés malgré ce que nous étions. L'apôtre Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions spirituellement morts aux yeux de Dieu. Et cela à cause, il est dit, de nos offenses et de nos péchés. L'apôtre Paul utilise donc deux termes pour parler à la fois du mal que l'on fait ou du bien que l'on ne fait pas. Jacques nous dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Et l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 3, verset 4, nous dit que quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché et la transgression de la loi. Donc il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et à cause du péché, il n'y a pas de communion possible, il n'y a pas de communication possible avec Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 59, dans les deux premiers versets, Ésaïe nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, le péché met une séparation entre l'homme et lui. Donc, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Il n'y a pas d'homme qui puisse dire « Je suis suffisamment bon et j'ai pas besoin de Dieu. » Et tous sont morts et parce que tous sont pécheurs. Notre destinée, tant que nous n'avons pas mis notre confiance en Jésus, la destinée, c'est la mort éternelle. La destinée, c'est l'enfer. Et l'apôtre Paul rappelle à ces chrétiens de ce qu'ils étaient avant d'avoir mis leur foi en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit que Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, il dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc nous étions sans force, nous étions sans Christ, nous étions des impies, car nous marchions ou nous vivions selon le train de ce monde. Vous étiez morts par vos offenses, il est dit, parce que vous viviez selon le train de ce monde. Le monde, c'est tout ce qui existe, tout ce qui est fait pour faire croire à l'homme qui n'a pas besoin de Dieu. Donc le monde a cette influence sur l'homme, et il dit que l'apôtre Paul dit dans Galates que nous étions esclaves du principe élémentaire du monde, que nous vivions sous l'influence d'une philosophie ou de la tradition des hommes, dans Colossiens chapitre 2 verset 8. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie pour nos péchés, afin, il est dit dans Galates chapitre 1 verset 4, afin de nous arracher de l'actuel monde mauvais. Donc c'est déjà la première des choses, ce monde, le train de ce monde mauvais qui a une influence sur nous. Le Seigneur veut nous arracher de ce monde mauvais. L'autre chose, c'est que nous marchions, nous vivions, il est dit, selon le prince de la puissance de l'air. Il parle du diable. Et nous étions influencés par le diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est Satan qui aveugle l'intelligence des hommes pour les empêcher de croire à l'évangile, selon 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Donc ce serait illusoire de penser que le mal n'a pas d'influence. Il est appelé le prince de la puissance de l'air. Donc même l'air qu'on respire est mauvais. Et l'apôtre Paul donc souligne donc non seulement l'influence que le monde peut avoir autour de nous, c'est pas si vous prenez le métro, vous allez voir il y a tout le monde il court pour aller prendre le train. Vous êtes en train de marcher tranquillement et puis vous voyez tout le monde en train de marcher vite. Ah, vous vous mettez à marcher vite aussi. C'est un peu ça. Mais on est aussi non seulement influencé par le monde, influencé par le prince de la puissance de l'air, le diable, mais influencé aussi par nos propres convoitises charnelles. cette vieille nature-là qui est là, et on doit lutter aussi contre cette vieille nature, parce que le péché est en nous. Alors, il y a ces trois notions, le monde qui est là autour de nous, le diable qui est là, qui nous influence, mais aussi cette vieille nature que nous héritons de nos pères. Et tout cela fait de nous des enfants de colère. Et sous la condamnation de Dieu. Jean chapitre 3, on peut lire quelques versets, ce que dit le Seigneur dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 3, c'est dans ce passage que le Seigneur Jésus, il rappelle à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Donc qu'il faut devenir un enfant de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est dans ce passage, dans ce chapitre, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, au verset 16. Et au verset 17, le Seigneur dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et au verset 35 et 36, il est dit: le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, tant qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure. Et nous étions tous, avant, nous étions des enfants de colère, nous étions morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et le Seigneur nous dit: mais Dieu qui est riche en miséricorde. Merci Seigneur. Donc en tant que chrétien, c'est comme ça que nous étions tous avant. Que l'on soit, l'apôtre Paul fait la distinction entre ceux qui sont d'origine païenne et ceux qui sont d'origine juive dans ces trois versets. Donc pour dire l'universalité du péché. Que l'on soit juif ou non juif, nous sommes tous des pécheurs et qu'il faut donner donc sa vie à Jésus-Christ. Donc, lorsque l'on se tourne vers Jésus, le Seigneur change notre destinée. Si avant notre destinée c'était la mort éternelle, l'enfer, en croyant en Jésus, le Seigneur nous donne une nouvelle destinée. Il nous a délivrés de la mort éternelle que nous méritions. Il nous a délivrés de l'esclavage dans lequel nous vivions, esclaves du monde, esclaves du diable et esclaves de cette vieille nature, de ces désirs charnels. Et il nous a délivrés de la condamnation que nous méritions puisque nous ne sommes plus des enfants de colère comme les autres. L'autre chose, c'est que Dieu nous a sauvés pour nous donner une nouvelle position. Nous sommes maintenant en Christ et c'est ce qu'il dit dans les versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Une nouvelle position. Donc, pour nous qui avons mis notre confiance dans le Seigneur, nous qui croyons qu'il est le Fils de Dieu, et que c'est à cause de nos péchés qu'il a donné sa vie sur la croix, il nous est donc rappelé la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. Il est dit que c'est à cause de son amour. Et si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause d'aucun mérite. Le salut est l'œuvre de la grâce de Dieu envers l'homme pécheur. et nous qui étions donc séparés de lui, morts par nos offenses et par nos péchés, au moment de notre conversion, Dieu, il est dit, nous a rendus vivants avec Christ. Puisque nous étions morts avant, il était donc nécessaire de passer par une nouvelle naissance, et ce que le Seigneur Jésus-Christ rappelle dans Jean chapitre 3, verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc nous ne sommes plus morts, mais vivants. Nous sommes passés de la mort à la vie grâce à l'œuvre du Seigneur, du Saint-Esprit, qui nous a régénérés lorsque nous avons mis notre foi en lui. Il nous a rendus vivants et nous a, il est dit, ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc là, l'apôtre Paul est en train de dire que les chrétiens, et après il parle d'une nouvelle création. C'est vrai que dans 2 Corinthiens, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes son ouvrage, il est dit après, ayant été créé en Jésus-Christ. Donc les chrétiens sont, on est sur terre, mais aussi on est déjà dans les cieux. Et il n'y a que les chrétiens pour cela. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont encore sur terre. Ils ne sont que sur terre. Mais les chrétiens, Dieu les a sauvés, il aurait pu les prendre directement, mais il dit, je vous laisse encore sur la terre, mais sachez que vous êtes aussi dans les cieux. Et donc, il y a cette double position, c'est-à-dire qu'on est là, et Dieu nous laisse là comme témoin, mais pour nous donner le gage, l'assurance de ce que nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est l'assurance que nous avons d'être pour toujours avec lui. Alors, cette position en Christ, puisque Dieu nous a rendus vivants avec lui, nous sommes déjà dans les lieux célestes avec lui, donc c'est le gage pour nous, et la parole nous dit que nul ne peut nous ravir de sa main. La parole nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et avec l'apôtre Paul, on aurait pu lire le Romains chapitre 8, verset 31 à 39, et nous dire qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. On va le lire quand même, hein, Romains chapitre 8, parce que je voulais un peu aller un peu, mais on peut se l'approprier ces versets, le Romains chapitre 8. C'est pas juste l'apôtre Paul le dit. C'est parce qu'il sait qu'il est vivant et qu'il est déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, quelles que soient les épreuves qu'il rencontre, quelles que soient les souffrances, quelle que soit la situation, même s'il est en prison, même si, quel que soit, rien ne peut le séparer de l'amour de Jésus-Christ parce qu'il est déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, il dit au verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ils ne pourront pas le faire parce que nous sommes déjà dans les lieux célestes. Personne ne peut nous ravir de sa main. Et donc, cette position en Christ nous donne donc l'assurance de notre destinée éternelle. nous donne l'assurance d'être toujours avec le Seigneur. Et l'autre chose, c'est que Dieu nous a sauvés pour nous donner aussi de nouvelles responsabilités. Parce que on aime bien savoir que Dieu nous a sauvés, nous a donné une nouvelle destinée, on a la vie éternelle, on est content. On ne peut pas perdre notre salut, ça on est très content aussi. Mais on oublie cette troisième chose, qu'on a aussi des responsabilités. Et ça, c'est la partie un peu moins intéressante, entre guillemets, mais qu'il est important d'entendre. Il dit, si je vous ai sauvé, c'est pas... Si je vous ai laissé sur la terre, c'est dans un but bien précis. J'ai préparé pour vous des bonnes œuvres pour que vous les pratiquiez. Et le verset 7 nous dit que donc Dieu sauve l'homme pécheur repentant afin de montrer, il est dit, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous avons lu quelques versets pour nous rappeler, le chapitre 1, que Dieu nous a sauvés pour célébrer sa gloire. Et là, le texte dit, il nous a sauvés pour montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Après, au chapitre 3, il dit que par l'Église, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, par nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, ils connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, dans son plan, il a prévu de toute éternité de sauver des hommes pécheurs qui reconnaissent leur péché, qui mettent leur foi en Jésus. Et il dit, au lieu de les sortir du monde, je veux que tous, même les dominations, les autorités, voient ma sagesse, voient ma puissance. Et eux, ces poussières-là, ils seront là les instruments pour ma gloire. Et il nous donne les responsabilités. Donc l'ensemble des chrétiens, donc l'Église, nous sommes donc la création de Dieu, nous sommes son ouvrage, et par nous, Dieu montre, et il veut montrer l'infinie richesse de sa grâce, il veut montrer sa sagesse. Et c'est Dieu qui a tout fait, à lui toute la gloire. Nous n'avons donc aucun mérite, nous ne pouvons que dire « Merci Seigneur de m'avoir sauvé ». Je ne mérite rien, quand je vois comment je suis, je ne mérite rien, merci Seigneur. Mais maintenant, que puis-je faire pour célébrer ta gloire constamment? Et c'est en pratiquant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces bonnes œuvres, très souvent, on pense au service dans l'Église. Eh oui, mais ce n'est pas tout. Et dans un premier temps, dans Éphésiens, et assez souvent dans les lettres de l'apôtre Paul, il y a une première partie, on va dire plus théorique, d'enseignement, etc. Et après, une partie pratique. Et dans le chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, l'apôtre Paul fait... une démonstration de quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres, il nous dit que en tant que chrétien, vous devez marcher de manière digne de votre vocation. Alors, puisque maintenant vous êtes chrétien, vous pouvez plus vivre comme vous viviez autrefois. Vous devez avoir une vie qui honore Dieu. Et ces bonnes œuvres que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des chrétiens dignes de son nom, que nous puissions servir dans l'Église, que nous puissions donc arrêter de vivre selon le péché, etc. Ces bonnes œuvres, il dit, voilà, tu es marié, Alors, occupe-toi de ton épouse. Aime ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est une bonne œuvre que je veux pour toi. En tant qu'épouse, sois soumis à ton mari. Tu as des enfants, élève tes enfants selon le Seigneur. Ça, c'est les bonnes œuvres que j'ai pour toi. Enfants, obéissez à vos parents. Tu travailles dans une entreprise, eh bien, fais bien ton travail comme pour le Seigneur. Tu es patron, eh bien, rémunère convenablement ton employé. Ça, c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, chapitre 6. Donc, les bonnes œuvres, il dit, priez pour tous les saints, priez pour nous. Les bonnes œuvres, c'est prier, prier les uns pour les autres. Lorsque je viens à l'étude biblique, que je viens prier pour un tel et un tel, je pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Et donc, lorsque je ne le fais pas, je passe à côté. Faire le bien, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Et celui qui fait le mal qu'il ne devrait pas, il commet un péché aussi. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions, c'est dans notre vie de tous les jours. Dieu ne nous demande pas d'ignorer des choses qui sont là devant nous et que nous attendons de nous que nous fassions le bien et que nous voulions aller à l'autre bout du monde pour faire soi-disant l'œuvre de Dieu. Commence déjà à faire ce que qui a là devant toi, fais ces bonnes œuvres qu'il a mis devant toi déjà. Donc voilà, le Seigneur, il nous dit, je t'ai sauvé, je te donne une nouvelle destinée, je te donne une nouvelle position avec qui te donne l'assurance de ton salut, mais je te donne aussi de nouvelles responsabilités. Et si je te laisse sur cette terre, c'est pour que tu aies une vie pour célébrer ma gloire. Et si tu es sauvé, il n'y a aucun mérite, parce que voilà comment tu étais, voilà ce que tu es, et voilà ce que je veux faire de toi. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à vivre pleinement ces choses. Que le Seigneur nous aide à célébrer sa gloire jour après jour. Nous servons le Dieu trois fois saint. N'oublions pas nos responsabilités. Et c'est comme cela aussi que nous témoignons, nous montrons aux autres cette nouvelle création, pourquoi Dieu nous a sauvés, ce que Dieu peut faire dans la vie. Voilà ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alors, soyons des modèles pour cela, pour que les autres puissent voir Christ à travers nous. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que vous soyez sauvés. Donc, si vous entendez sa voix, comme on l'a entendu ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu veut vous donner une nouvelle destinée, il veut vous donner une nouvelle position, il a des responsabilités aussi pour vous. Maintenant, vous voulez pas vous humilier devant lui, reconnaître ce que vous êtes devant lui, vous allez demeurer, vous allez rester des enfants de colère et la condamnation de Dieu sera sur vous. Que ça soit pas le cas. Si vous êtes au bénéfice de sa grâce, si vous entendez sa parole, donc que vous puissiez plier les genoux devant lui et dire oui, je me reconnais dans cette description qui est faite de l'homme qui est pécheur et je suis mort à cause de mes offenses, à cause de mes péchés. Mais toi, tu es riche en miséricorde et tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, pour que moi je sois sauvé. Et donc moi, je veux saisir ta grâce et je veux dire oui, Seigneur, je crois en toi. Amen.